réception.
Bonjour. Avec la fin du mois de mai qui approche, revient la période de transhumance dans les régions d'élevage de moutons. Chaque année en France, quelques 600 000 bêtes sont menées dans les alpages, où elles trouveront l'herbe qu'il n'y a plus en plaine. Autrefois, cette transhumance se faisait à pied et pouvait prendre des semaines. Aujourd'hui, elle se fait en camion et ne prend que quelques heures. Mais le travail des bergers, lui, n'a pas fondamentalement changé, si ce n'est qu'il ne se transmet plus forcément de père en fils et qu'il est souvent assuré par des jeunes originaires de milieux urbains. Ils partagent avec les éleveurs une passion pour leur métier, des métiers qui n'échappent pas aux difficultés qui touchent plus largement l'élevage et l'agriculture. Pascal Dervieux et Hervé Desjardins ont suivi la montée d'un troupeau depuis la plaine de la Croix jusqu'aux alpages du parc du Mercantour. Voici leur reportage « Tant qu'il y aura des bergers », un reportage que vous pouvez aussi écouter en son surround 5.1 sur notre site internet.
Interception, le magazine de la rédaction.
Bonjour Guillaume Lebody.
Bonjour.
Vous êtes ethnologue et vous allez nous expliquer, nous sommes dans un endroit ici très particulier, dans la plaine de la Croix, de la Crau, comme on dit ici. Hein. Expliquez-nous pourquoi vous nous avez amené dans cet endroit précisément.
Parce que c'est, je pense, un des hauts lieux du pastoralisme en Provence. Et puis c'est un lieu qui est aussi directement relié avec les Alpes. Donc c'est pour ça qu'on vous a amené ici, puisqu'on voudrait vous parler de transhumance. Il faut savoir que la transhumance en Provence, elle redémarre à partir du Moyen-Âge, 12e siècle, 13e siècle, puisqu'elle avait déjà, disons qu'un type d'élevage, peut-être transhumant, avait déjà existé à l'époque romaine, et puis même avant, et qui on va aller chercher pour s'occuper des troupeaux, qui sont les plus aptes, les plus compétents, ceux qui ont le plus de savoir-faire pastoraux pour s'occuper des troupeaux, ce sont les alpins. Et les alpins, ils sont là depuis, on va dire, le 13e, 14e siècle jusqu'à nos jours. Et puis ce sont des alpins de tous les massifs qu'on a en France et jusqu'en Italie, jusqu'en Piémont. Ce sont des alpins de langue occitane. Et quand on veut parler de transhumance, la transhumance qui est un voyage, je pense que c'est bien de commencer par la Croix puisque c'est le début du voyage ici. C'est une plaine d'hivernage. Les bêtes ont passé tout l'hiver ici, la fin de l'automne, et puis tout l'hiver dans la Croix et dans les alentours, dans les prés. Et puis elles sont entrées dans la Croix sèche, où nous nous trouvons actuellement, où il y a la réserve naturelle, avec toutes ces belles bergeries. Et puis elles commencent à en partir aujourd'hui pour gagner les Alpes et aller chercher de l'herbe neuve, puisque là, comme vous le voyez autour de nous, c'est tout un peu jaune. Il y a la follavoine qui est montée, et puis il n'y a plus vraiment d'herbe. Là, d'ici quelques temps, il n'y aurait plus d'herbe suffisamment, en suffisamment grande quantité pour nourrir les gros troupeaux qu'il y a ici en Croix, puisqu'il y a des troupeaux de 800 à 1000 bêtes. Donc il faut de l'herbe, et l'herbe, il faut aller la chercher. Donc ici, c'est le début du voyage. Jean-Pierre, venez ici, là, près de nous. Jean-Pierre, avant la transhumance, il y a une opération indispensable, c'est l'ensoleillage. Oui. Expliquez-nous en quoi ça consiste.
Ben, la préparation du troupeau, déjà pour la montagne, déjà le premier travail, c'est de péguer le troupeau. Ça veut dire les initiales du propriétaire sur l'arène, que ça a toujours été obligatoire depuis les années 16, même quand il faisait la route à pied. Voilà. Et après, préparer les flocas, faire les flots. Alors c'est que quand on laisse de la laine sur des mâles castrés qui sont apprivoisés, qui nous marchent à côté comme un chien laisse, on appelle ça un floca. Et dessus, on y laisse trois touffes de laine, ça s'appelle les flots. Et on y range ça avec des ciseaux, on y attache avec des ficelles. Et après, on met les sonailles. Après, on a un sonaille, voilà. Alors ça, c'est un peu la stéréo du berger. Voilà.
Expliquez-nous en quoi ça.
Les sonailles, on met des pics, on met des clavelas, on met des platelles. Il y a cinq catégories de sonailles. Après, il y a des redons qu'on met sur les flocas, puis des gros redons qu'on met sur les boucs. Et on choisit la sonnaille, puis après on choisit la bête qui est le coup qui correspond au collier. Et après là, la sonnaille dessous. C'est pas la cloche, la sonnaille. Mm-hmm. C'est provençal.
Mm-hmm. Et ça n'est pas seulement une utilité esthétique, il y a aussi une utilité. Vous parliez du loup par exemple.
Pour le troupeau aussi, ça fait tenir les bêtes ensemble. Voilà. Un bon troupeau ensonnaillé en montagne, surtout que comme nous on met les brebis adultes avec les agnelles qui auront un an au mois d'octobre. Ça fait que quand il fait mauvais, qu'elles se coupent, elles entendent les sonnailles, pof, même si le berger n'est pas là, elles entendent les sonnailles, elles reviennent sur le troupeau.
Nicole Valérian, bonsoir. On vous trouve ici au MAS, la veille du grand départ, du départ en transhumance. Ouais. Est-ce que c'est un moment important? Est-ce que vous, la veille du départ, vous passez une nuit normale? Est-ce que vous dormez normalement?
On ne dort pas normalement parce qu'on a peur de ne pas se réveiller quand les camions arrivent. Et du coup, ben, on ne dort pas beaucoup. Vu qu'ils arrivent entre 4h, 4h30, on attend qu'ils arrivent. Bien sûr, on s'endort quand ils arrivent.
Parce que la transhumance, c'est toute une organisation et tout ne dépend pas directement de vous. Il y a notamment les transports aujourd'hui.
Les camions, qu'ils soient à l'heure, qu'ils soient propres, qu'ils soient OK quoi, pour rouler. Et que les brebis soient prêtes, qu'elles n'aient pas mangé la veille pour passer un bon voyage. Pour pas qu'elles prennent le pipi, caca, le transport, le ventre plein. Enfin bon, ça ne se
c'est,
fait pas
c'est
bien.
C'est pour ça que ce soir, on les entend particulièrement.
Elles réclament là, ouais, elles réclament. Demain soir, vous les trouverez plus calmes. Quand elles auront gamélé en arrivant, ça se passera beaucoup mieux. Et puis surtout, après, tout ce qui est préparation de matériel, de nourriture pour les quelques jours qu'on passe là-haut, la clôture, les croquettes pour les chiens.
Votre angoisse à la veille du départ, c'est quoi? La grosse angoisse, le gros pépin qui pourrait arriver
Le camion renversé pendant le voyage. Un accident de camion, on n'est pas à l'abri, quoi. La remorque renversée, là, il y a la moitié du capital qui est par terre, quoi. Après, sur place, mais est-ce que l'été va bien se passer, quoi? Les orages en montagne, les attaques de loups et la météo aussi à la montagne. Est-ce qu'il y aura de l'herbe pour passer tout l'été? Est-ce que ça va aller Voilà. Elles montent en bon état, mais comment elles vont redescendre Enfin, voilà, quoi. Enfin, de toute façon, c'est du vivant, donc on a toujours du souci, quoi.
Vous faites monter combien de bêtes?
Là, demain, il y en a 900 qui partent. 897. Chèvres, cabris, béliers, tout compris.
On peut dire quoi? C'est un troupeau moyen?
Ouais, pour la croix, relativement moyen, oui.
La transhumance, pour vous, c'est pas du folklore, c'est quelque chose qui est vital pour le troupeau.
Oui, c'est vital parce qu'ici, il n'y a plus aucune ressource herbagère. Il faut aller là-haut. Les brebis, déjà, par la chaleur, elles sont largement mieux là-haut qu'en bas. Et puis, ça fait partie du mérinos, quoi. Autrement, on élèverait des races beaucoup plus qui sont stables, quoi. Qui n'ont pas besoin de transhumer. La mérinos, elle est plus à la fois pour faire de la viande et en même temps pour entretenir le paysage. Après, si vous voulez, je vous expliquerai les différentes pegs. Pegs, ça vous parle?
Les marques. C'est la marque, oui.
Ouais. La forme du C avec la croix en dessus de C et l'encre de marine qui est dessous, ça c'est la marque du troupeau. Le troupeau vient de mon oncle et de mon grand-père maternel, c'est Covin. Donc c'est le C du nom de famille. Mon grand-père venant de Saint-Tropez, il était varois. L'encre de marine représente la passion pour la mer et la croix bien sûr la foi parce qu'il était chrétien. Ensuite vous avez des brebis qui sont pégées VR. Vous en voyez une là-bas. Et le VR, Valérien c'est mon nom de famille et Rémi c'est mon frère aîné. Comme c'était l'aîné, il a eu la chance, il a eu sa pègre. Après, c'est fini. Il ne faut pas passer en dernier. Il n'y a que lui qui l'a. Donc, celle-ci et les petites femelles que je vends, elles ont le VR.
Est-ce que les bêtes conservent la mémoire? Est-ce qu'elles sentent venir la transhumance?
Oui, ça, je pense que oui. Parce que vous allez, demain, quand elles entendent les camions, elles comprennent. Les camions, les gyrophares, les projecteurs, elles comprennent. Et là-haut, elles ne se trompent pas. Elles ne prennent pas le chemin de droite pour aller à la cabane, elles prennent le chemin de gauche. Enfin, je vous dis n'importe quoi, mais elles ne se trompent pas. Ça, c'est Lulu.
Et vous les connaissez toutes par là?
Oui, oui. Elles n'ont pas toutes un prénom, hein, attention, on se calme. Non, non, non. C'est les copines.
il est 5h du matin. On s'est payé le luxe aujourd'hui de réveiller le coq du mas Brossard qui dormait bien paisiblement. 5h du matin, nous sommes sur le mas de Nicole qui prépare donc la transhumance. Et les poids lourds sont déjà là. Il y a 3 camions à bord desquels on va charger les 800 bêtes du troupeau pour parcourir les 200 et quelques kilomètres qui vont nous amener jusqu'au pied de la montagne qui sera le véritable début de la transhumance. Voilà, 5 heures de route plus tard, 5 heures d'autoroute en particulier. Nous avons quitté les Bouches-du-Rhône et nous sommes arrivés ici dans les Alpes d'Haute-Provence, au pied d'une montagne qui culmine à environ 2000 mètres. Nous sommes ici à quelques kilomètres de la frontière italienne. C'est ici que les bêtes sont débarquées et c'est ici qu'elles vont entamer leur transhumance à pied. Nous allons parcourir environ 5 à 6 kilomètres à pied pour gagner ce qui sera le lieu de l'estive, le lieu de la transhumance où les bêtes vont rester pendant 3 mois jusqu'au moment de la redescente début octobre.
Patrick Fabre, donc je travaille à la maison de la transhumance de Saint-Martin-de-Croix depuis quelques années déjà, et je me suis pris de passion auprès de ces gens, de ces hommes qui travaillent auprès des bêtes depuis maintenant une vingtaine d'années, et je crois que la passion n'est pas prête de s'arrêter.
On est ici à l'entrée du parc national du Mercantour,
tout près de la frontière italienne, puisque le col de l'Arche est à 200 mètres de nous où nous sommes là actuellement. Donc c'est la frontière italienne, la frontière avec les Alpes-Maritimes, plutôt dans les Alpes du Sud, donc plutôt des climats accueillants. La neige fond quand même rapidement, puisqu'ici les températures se réchauffent vite et l'herbe pousse vite, ce qui est le cas autour de nous aujourd'hui.
La transhumance aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est un vieux reste d'archaïsme un petit peu folklorique, ou bien est-ce que ça représente encore une réalité sociale en particulier.
La transhumance reste aujourd'hui encore un phénomène économique important, puisqu'il y a à peu près 600 000 brebis qui transhument depuis la Provence vers les Alpes du Sud ou Alpes du Nord. Donc ce n'est pas du tout une relique du passé, c'est au contraire encore une pratique très contemporaine qui est de toute manière indispensable pour les éleveurs et les bergers de Provence, puisqu'on ne peut pas garder les bêtes en plein l'été, évidemment, il y fait trop chaud. Il faut venir ici à la recherche de l'herbe verte, de l'herbe neuve, où les bêtes sont dans de bien meilleures conditions d'élevage, avec une filière économique et une production d'agneaux de qualité importante pour notre patrimoine et également notre économie, puisque ça fait vivre pas mal d'éleveurs, de bergers sur toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes.
Et puis forcément avec des implications sur l'environnement même.
Les paysages où nous sommes ici, notamment dans le vallon du Zosanier, donc ont été créés par la dent des moutons ou des vaches sur d'autres territoires depuis des centaines, voire même des milliers d'années. Donc le parc du Mercantour aujourd'hui favorise la présence des bergers, des éleveurs et des troupeaux, puisque ce rôle dans l'environnement est désormais reconnu par notre société. Dans l'environnement, mais également au niveau social, puisque la présence des bergers et des éleveurs maintient une activité économique, une présence humaine qui est importante pour ces milieux naturels.
Pâtissier, mais j'ai eu une allergie à la farine et j'ai dû me recycler. Et un jour, j'ai trouvé un papier ou un prospectus où il disait vous voulez devenir berger, tout ça, à l'école du maire, là, au Salon de Provence. J'ai dit tiens, je vais passer le concours. Ben, j'ai passé le concours, je suis resté un an donc, dans l'école et j'ai appris toute la technicité sur la brebis, que si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas fait ce métier parce qu'il y a une technicité très importante derrière. Et puis depuis, j'adore ça.
Mais voilà. Ça veut dire, familialement, vous n'aviez aucune attache avec...
Non, je ne connaissais pas du tout le mouton, quoi. Avant, je faisais les montagnes, je faisais comme beaucoup les touristes, randonneurs. Je ne savais pas qu'il y avait des moutons dans les montagnes. Depuis que je suis berger, maintenant, je sais qu'il y a des moutons dans les montagnes, quoi. Voilà. Et puis, je sais que si on donne du bien à la brebis, un bien-être, eh ben, nous le rendent, et puis on travaille beaucoup moins, et puis plus tranquille, et plus serein, et les brebis nous écoutent. Et ça, c'est que du plaisir.
Pour des gens qui vont nous écouter, qui n'ont pas la chance de vous voir, je vais vous décrire un petit peu. Parce qu'il y a quand même dans l'imaginaire collectif l'image du berger, un monsieur un peu âgé avec une grande canne et puis un grand chapeau. Alors, vous êtes à l'opposé total de cette image-là.
Je vais vous faire prendre conscience que ce n'est pas utile d'être comme ça pour faire berger.
Vous êtes d'abord très sportif, vous êtes mince, vous avez le bandana autour du front avec les Ray-Ban sur le bandana.
Oui, aussi.
Vous avez la fourrure polaire, vous avez le sac à dos. Le randonneur de montagne typique.
Bah ouais, mais sac à dos, il faut les affaires de pluie et tout, parce que voilà, s'il y a la pluie qui arrive, j'ai tout dans mon sac. J'ai mon casse-croûte aussi, bon, c'est des fruits là. Et puis voilà, on n'a pas besoin de s'habiller comme dans le temps, avec des choses qui font 20 kilos dans le dos. Ça sert à rien, quoi. Maintenant, le monde du berger, il est différent, je dirais. Ça n'a plus rien à voir. En plus, on est un seul berger pour un troupeau. On n'est plus 15 bergers ou 10 bergers pour un troupeau. On n'a plus besoin de se faire remplacer. Moi, je vais faire les 4 mois de cet été, tout seul, tranquille. Voilà. Moi, j'ai dit à ma patronne, si tu veux venir, tu viens, mais moi, j'ai besoin de personne, quoi. Je m'occupe de tout.
Alors, le troupeau a quitté ce matin un masse des Bouches-du-Rhône.
Ouais.
Et au point de vue couleur, on est passé de la végétation un peu grillée.
Sèche, ouais, tout à fait.
À une végétation totalement verte. Là, on est dans le vert.
Ah, dans le vert.
Et on sent que les bêtes ont plaisir à se retrouver dans le vert.
Ah oui, c'est clair. Puis en plus, elles connaissent bien le chemin. Ça fait des années qu'elles le prennent. Bon, je suis obligé de les arrêter parce que là, on attend que les autres finissent de manger. Puis après, une fois qu'on va finir, elles vont se trouver leur chez elles, le parcours que je dois leur faire faire, tout, faire manger de l'herbe qu'elles n'aiment pas, que je leur oblige à manger. Parce que sinon, après, j'ai pas assez d'herbe. Par rapport, j'ai 240 hectares. Donc pour 1200 brebis, et la plupart ont 1500 brebis, mais ils ont peut-être 300, 400 hectares. Moi, j'ai que 240 hectares. Donc, je dois gérer mon herbe. Et ça, si on ne le fait pas correctement, ben, au mois de septembre, elles n'ont plus d'herbe. Et puis ben, je suis obligé d'amener les camions, de les faire redescendre, tout. Et puis moi je garde plus ma place parce que j'ai mal fait mon travail. Vénus droite, Hera, Clès. Hera, Toum.
Ça c'est les ordres que vous donnez à, oui. à vos chiens. Hein,
qui fais le tour, Vénus.
Qui vont ramener le troupeau dans le
voilà,
droit chemin.
Voilà. Ils vont se mettre derrière le troupeau. Et souvent dans mon vallon, quand je suis là-bas, je peux être avec les touristes en bas et mes brebis en haut, puisque moi mes chiens ils restent avec le troupeau. Puis en même temps je discute et je leur explique comment ça se passe, le monde du métier. Puis il y en a beaucoup qui me disent, vous savez pas où est le berger? C'est moi le berger. Ah bon? Eh oui, bah, vous faites comme vous êtes tout à l'heure. Eh oui, j'ai pas besoin d'avoir la barbe longue, j'ai pas besoin d'avoir tout ça. Ah non, en même temps on est moderne quoi. Enfin, j'essaie de faire prendre conscience que c'est un métier comme un autre quoi. Non, non, c'est vraiment tranquille. Non, c'est vraiment un beau métier. Je suis heureux. Je suis bien.
Et un berger heureux, qu'est-ce que ça fait un berger heureux? Ça se roule, il respire.
Oui, voilà.
Monsieur Andris, fils d'éleveur, d'éleveur dans les années 50, même je dirais 45, après la guerre, quoi, voilà. Mes parents avaient un troupeau de moutons, certainement comme Nicole, et c'était l'époque où, évidemment, les grandes transhumances à pied.
Ça durait voilà. Combien de temps?
Ils partaient, ben, disons, de la Croix, autour de fin mai, et ça durait bien 18 à 20 jours. Voilà. Coucher à la Belle Étoile et vivre au rythme de la bête. C'est certainement plaisant, quoi, mais voilà.
Alors ça, vous ne l'avez pas connu?
Moi, j'ai commencé à conduire. Oui, ça, c'est mon père, oui. Il a fait ça 18 ans. 18 années. Il partait avec 2500, 3000 bêtes sur la route. Et ils étaient des équipes de 8 à 10, 7 à 8 bergers, vous voyez. Et ils faisaient des étapes de 18, 15 à 18 km. Au rythme, au printemps, doucement, quoi. Et à l'automne, ils repartaient, mais plus tôt, pour éviter l'annulage en route.
Ça devait être épuisant quand même.
C'était très épuisant. Très épuisant, mais c'était une équipe de, je peux dire, qui s'entendait très bien. Et mon père était après ce qu'on appelle le bail, le responsable du troupeau. Alors lui, il partait un jour ou deux avant, acheter l'herbe, vous savez, pour les soirs d'étape. Quand il passait dans les plaines de la plaine de Valensole, Manosque, tout ça, mon père m'a toujours dit qu'il y avait des étendues de blé. Et là, il y avait des chiens de troupeau, quelque chose de formidable qui paraît de chaque côté. Et là, des fois, ça a donné des histoires. Comme bien fait, ça s'arrangeait toujours. Je pense que ça s'arrangeait toujours.
Quand votre père partait de la Croix, il allait à la montagne où?
Il allait à Saint-Rémy-de-Maurienne, c'est-à-dire c'est en Savoie. Voilà. Et ils avaient 18 jours de route. Voilà.
Et puis c'était sur l'alpage lui-même, c'était un autre mode de vie.
C'était une vie très difficile. Je ne veux pas dire que ça s'est amélioré. Si, ça s'est amélioré point de vue confort. Mais ils avaient vraiment, comment je peux dire, ce qu'on appelle une cabane, vraiment une cabane, quoi. Voilà, c'était vraiment un abri dérisoire. C'était dur, très dur. Mais ils étaient passionnés.
Il fallait faire son fromage pour manger
voilà,
un peu.
Voilà, ils avaient leurs chèvres, ils traisaient leurs chèvres. Et c'était un peu une vie solitaire, quoi, voilà. Difficile, mais il y avait le bon côté de l'autre côté, quoi. Voilà.
Quand votre père a vu arriver les camions, qu'est-ce qu'il a dit?
Eh bien oui, et lui, il voyait surtout l'acclimatisation de la bête. Vous voyez, lui, il disait, mon père, un ancien berger, il disait, on mettait 17, 18 jours, la bête avait le temps, nous on était fatigués, la bête aussi, mais elle avait le temps de s'acclimater, elle avait le temps que là, maintenant, vous avez vu, vous êtes parti ce matin, ben 6-7 heures après, on se trouve à 1800, 2000 d'altitude, et la bête faible ou autre chose, on risque de mauvais temps, elle a moins de chances de s'en sortir, voilà. Eux, quand ils étaient à pied, ils voyaient une bête, ils la mettaient dans la charrette, ils essayaient de la soigner. Elle mettait un temps d'adaptation, mais elle s'acclimatait au fur et à mesure des étapes. Et là, c'est du rapide, le camion, mais c'est une belle chose. Je reconnais que c'est une belle chose.
Vera, tacala là. Viens là. Tac là.
Ah, voilà, stop. Reste à tout. Tac là-bas, vas-y. Viens ici, Eva.
Si j'avais pas les chiens, de toute façon, on peut pas faire berger. Non, j'ai fait la première année berger et j'ai perdu 10 kilos. Alors, attends, pour faire le chien, j'avais 1800 têtes. J'avais mon petit chien, donc Vénus. Moi, c'est tout. 1800 têtes, c'était impossible. J'ai perdu 10 kilos. Je me suis dit, d'accord, on me fait des chiens. Et là, je me suis pris après un deuxième chien. Et puis voilà, ben, ça, une fois que j'ai donné les ordres comme je voulais, j'ai plus rien à faire. Vénus, là, gauche, Vénus. Vénus, gauche. Gauche, Hera, laisse. Et sans les chiens, c'est impossible de faire berger. Hein.
Là, vous avez trois types de chiens différents sur le...
Oui, là, il y a les patous, les chiens de protection du troupeau. Et j'ai deux border collies, donc les miens, que j'ai élevés, éduqués, mis les ordres comme je devais faire. Mais ça, je suis tranquille, voilà.
C'est long, éduquer un chien?
Non. Non, il faut leur apprendre les ordres, mettons pendant 10 jours se tenir à un seul ordre, ou même pas 10 jours, je dis 10 jours, c'est pour donner une belle marge. Mais une fois que l'ordre il est acquis, il est acquis.
Et après, quels ordres vous lui donnez, par exemple?
Bah, comme droite, gauche, pas bouger, coucher, debout, oui, debout, assis, monte, descend, regarde, voilà, cherche. Vénus, elle a réussi à enregistrer 17 ordres que j'ai réussi à lui faire faire.
Alors, vous avez parlé du patou, qui est un chien qui a refait son apparition dans les troupeaux depuis une vingtaine d'années à peu près.
Ouais, à peu près, peut-être.
Avec l'apparition du loup.
Ouais, on va dire, ouais, une vingtaine d'années, ouais, ouais.
Et son rôle, c'est de garder le troupeau du loup.
Du loup, logiquement. Mais bon, un loup, il fait ce qu'il veut. Donc, moi, j'ai eu d'autres patous, d'autres troupeaux dans d'autres montagnes. Ça n'a pas empêché que le loup, il vienne au troupeau et le patou, il est là, quoi. Le matin, je le vois, tranquille. On m'a jamais dit que non plus le patou est efficace contre le loup. Mais il est là, c'est vrai qu'un gros chien, un chien qui aboie va effrayer plus le loup que si un troupeau, il n'y a pas de chien, ben, il aura moins peur, donc le loup il va y aller. Quoi. Vénus, là, tac là-bas. Viens là, tac là. Viens là, tac là. Non, Vénus. Vénus, viens là, là, viens. Vénus, gauche. Là, Vénus, là. Là, gauche. Vénus, gauche.
Alors là, nous sommes sur un chemin qui domine la cabane et on est entouré d'immenses pâturages qu'on est en train de clôturer. Et donc, il y a les équipes de Nicole qui sont en train d'effectuer un travail incroyable parce que sur des centaines et des centaines de mètres, on plante des poteaux, des petits poteaux en plastique qui vont conduire l'électricité dans des fils. Et on va demander justement aux amis de Nicole qui travaillent pour elle et pour l'installation définitive de son troupeau pour cet été, quelle est l'utilité de ces fils électriques et de ces parcs que l'on est en train d'installer sur des surfaces qui paraissent gigantesques.
On fait la pose d'une clôture d'une part pour les touristes et surtout pour la mesure pour le loup.
Alors quand vous dites que c'est une mesure de protection contre le loup, vous pensez que c'est vraiment efficace, ces clôtures électriques?
Efficace, je ne sais pas. Mais en les posant, on a des subventions. Voilà. C'est comme ça.
Le loup, on sent que... Alors, très peu de gens l'ont vu, mais ça nourrit vraiment les conversations parmi les éleveurs ici.
C'est pas que ça nourrit les conversations, c'est que ça fait mal aux tripes. D'y penser. Voilà. Quoi, c'est... Mon sentiment à moi, rien que de penser que tes brebis que tu travailles toute l'année avec... Elles puissent subir une attaque alors qu'elles n'ont rien demandé. Tu ne travailles pas toute l'année pour après ramasser des cadavres. Quoi. Si le loup il en boufferait qu'une, pas un problème. Mais s'il fait une attaque et qu'il en tue 150, là c'est pas normal. Il attaque aujourd'hui, après il y a un problème de reproduction, donc une perte économique pour l'éleveur, pas d'agnelage, avortement, stress. le salarié, on le paye avec nos ventes à nous, quoi, d'agneau. S'il n'y a pas d'agnolage, que tu as quand même un salarié, pour prendre les sous. Quoi, voilà. C'est juste après une question économique, quoi. Deux montagnes à côté, ce printemps, ils ont déjà morflé. Le loup, il fait pas que 3 km dans la nuit, quoi. Il promène. Tout l'hiver, il a couru après les chamois, tout ça, ou les chevreuils. Brebis, c'est facile. D'un coup, il en a 1200 ou 1400 brebis. C'est facile d'en attraper une, quoi. Quand il en attrape une, il en pousse 150 en bas, quoi. C'est ça, le mal.
Alors, il y a un autre prédateur dans la montagne dont un troupeau est en train de s'approcher de nous.
Bonjour. C'est le touriste. C'est dur à gérer le tourisme dans la région par rapport à l'activité de l'élevage.
C'est là que le parc est intervenu. Il a mis des halles là. Pour ça que le parc, c'est facile de le critiquer, mais il a fait de très bonnes choses.
Le parc national du Mercantour.
Voilà. Il a fait de très bonnes choses. Il canalise le tourisme. Il y a des gardes qui circulent. Et là-dessus, les personnes et le tourisme, ils sont assez respectueux, je pense. Donc, et après, avec un salarié comme Stéphane, qui aime bien parler aux gens, expliquer tout ça, ça se passe très bien.
Alors on dit que le berger passe sa vie tout seul pendant 4 mois, ça n'est pas vrai. Il y a bien sûr autour de lui les brebis, les chèvres, les chiens, les loups éventuellement, les touristes à coup sûr. Et puis il y a une autre partie de la population locale qui vient le voir très fréquemment, ce sont les marmottes. Elles pullulent ici dans ce secteur et nous sommes ici entourés de marmottes et on va essayer d'en enregistrer quelques-unes. Voilà, ce qu'elles auront à nous dire au micro, les petites marmottes des Alpes.
C'est extraordinaire parce qu'elle est à 5 cm du micro.
Stéphane, nous sommes ici dans ce qu'on appelle chez les bergers une cabane.
Une cabane, oui.
Alors faites-nous faire le tour du propriétaire. Vous avez une cabane relativement en bon état et bien équipée.
Oui, hein. Tout à fait, voilà. Donc moi j'ai deux pièces. La pièce où il y a la chambre, donc j'ai un grand lit, j'ai une chance d'avoir un grand lit. Un meuble pour mettre mes affaires. Pour ici c'est bon, la chambre. Après j'ai la cuisine, j'ai un grand poêle où je peux faire du bois, je peux chauffer, je peux même faire cuire de la viande. J'ai une gazinière au cas où, si ça ne devait pas aller. Des placards pour les rangements. Une grande table, je peux recevoir du monde. Et c'est pour finir la propriété, on peut aller dans le garage où au-dessus, j'ai des lits pour recevoir des clients. Enfin, des clients. Des personnes, quoi.
Et sinon, tous les bergers n'ont pas la chance d'avoir un confort très spartiate.
Oui.
Mais c'est quand même confortable. Vous avez l'électricité.
Oui, vous... Voilà, j'ai les panneaux solaires, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, j'ai une cabane la mieux aménagée, même dans l'Ubaye, quoi. Hein, c'est le paradis ici.
Et ça vous permet de garder l'œil quasiment en permanence sur le troupeau qu'on voit en contrebas là. Hein,
oui, voilà. Après, voilà, je peux rester tranquille. S'il pleut, ben, je les mets en bas et puis je suis tranquille.
Elles sont juste là, on va aller les voir, les bêtes.
Ah, c'est moi. Voilà, et tant que les soleils sont silencieuses comme ça, je sais qu'il se passe rien, tout est tranquille, calme.
C'est pas visité pendant votre absence des fois si.
L'année dernière. Une semaine avant qu'on a vu, ça a été visité. On a passé un barreau de la chambre et les personnes sont restées 2 jours. Ils ont mangé, ils ont mis la vaisselle toute sale dans le placard. Ils sont mariés, il n'y a rien à voler de toute façon. Et si, c'est visité. Et cette cabane-là est la cabane qui au lac du Lausanne a été visité. C'est pour ça qu'il y a des barreaux aux fenêtres, sinon c'est pas utile.
Pendant l'estive, dans le massif du Lausannier, Stéphane Bornéa n'est pas le seul berger. À une demi-heure de marche de sa cabane, Laurent Ripert, lui aussi, surveille son troupeau. Et si Stéphane a choisi le bandana pour se protéger du soleil, Laurent, lui, arbore une superbe coiffure rasta.
Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, dans le 92. Et bon, passion pour la montagne qui est née de tout petit, parce que les vacances, la chance, gamin, d'aller en famille dans la montagne ou faire du ski. Et donc j'ai senti ça très très fort, très jeune, quoi, que c'était vraiment la montagne où je voulais vivre et où je me sentais bien. Donc petit à petit, j'ai quitté Paris, descendu à Marseille, travaillé dans l'animation, toujours dans cet objectif de pouvoir être dans la montagne et emmener les enfants voir des bergers. Et un beau jour, je me suis dit, mais
il faut franchir le pas.
C'est le berger qui a raison, c'est lui qui est bien là. Et du coup, je me suis lancé et j'ai fait l'école du maire, la Salon de Provence. En plus, ça tombait à un moment où ma femme était enceinte, il fallait qu'on se pose un peu. J'ai pu m'installer, monter mon propre troupeau.
Alors quand on pense berger, on a dans l'esprit le travail solitaire. Et pourtant, quand on vient ici, on a l'impression d'une espèce de communauté un peu diffuse. Vous avez tous un peu le même profil. Hein. Il y a Stéphane qui est tout près de vous, là, qui travaille dans le même secteur. Des gens relativement jeunes, souvent d'origine urbaine. Vous êtes un peu exemplaire de ce que c'est aujourd'hui que le berger.
C'est vrai, ouais, ouais. En plus, là, moi, je suis tout à fait dans la génération et à un endroit là où j'ai vraiment vu le changement se faire. Quoi. Parce que bon, quand je suis arrivé ici il y a 15 ans, il y avait un peu des anciens bergers, un peu à l'ancienne mode, quoi, de l'ancienne génération, fils de berger. Voilà. Moi, je suis arrivé, j'étais le petit jeune citadin, le petit étranger qui déboulait. Là. Et maintenant, c'est devenu plutôt la norme. Quoi. Et maintenant, je m'aperçois, bah, je suis un des anciens du vallon. Et c'est vrai que la relève s'est faite et tous les nouveaux qui sont arrivés derrière, maintenant c'est plein de petits jeunes citadins qui se sont lancés. Quoi. Ouais, ouais.
Alors vous, ça y est, vous n'avez pas le moindre regret sur votre vie passée et vous êtes bien dans vos chasseurs de montagne.
Voilà. Ouais, ouais, surtout que moi, j'avais pas vraiment fait de plan, si ce n'est que voilà, bon, au départ la motivation c'était l'appel de la montagne. Comme moyen, j'ai découvert berger, je me suis dit bon, excellent. Mais après, je n'avais pas vraiment fait de plan à savoir est-ce que je vais m'installer, monter un troupeau en tant qu'éleveur ou rester berger salarié. Ou... C'est... Voilà, je me lançais là-dedans et après, bon, j'attendais de voir les opportunités. Quoi. Et c'est les opportunités qui se sont présentées un peu au jour le jour qui ont fait que 15 ans se sont passés comme ça et que j'en suis là aujourd'hui. Quoi. Tout s'enchaîne harmonieusement. Quoi.
Voilà, nous sommes au début du mois d'octobre et nous sommes de retour dans ce vallon du Lausannier, dans le petit village de Larches. Eh bien, le Lausannier nous accueille aujourd'hui, alors que nous sommes à la fin de l'estive, sous un soleil resplendissant. Et nous allons retrouver Stéphane qui va parquer son troupeau à quelques kilomètres d'ici pour le démontagnage. Le démontagnage, c'est-à-dire la redescente. Stéphane va faire l'opération inverse de ce qu'il a fait au mois de juin, c'est-à-dire qu'il va rassembler son troupeau dans un parc tout près du village, ici, pour embarquer les bêtes et... Ce sera le retour vers la plaine de la Croix. Ce sera la fin de l'estive. Alors c'est drôle parce qu'on vous retrouve quasiment au même endroit où on vous avait laissé.
C'est ce que je me disais ce matin. Ah mais... C'est vrai, je les avais laissés plus bas.
Et non, on est dans la même forêt de Mélèze, mais qui est en train de jaunir, de venir prendre des teintes dorées magnifiques
exactement.
Début d'automne.
Ah, et puis surtout les sureaux aussi, ils rougissent. Voilà. Ah non, c'est chouette.
Alors 3 mois tout seul, ça s'est passé enfin tout seul.
Ouais, moi ici je suis pas tout seul. Plein
ça
de
s'est
monde.
Passé comment?
Enfin, impeccable. Comme les autres années, donc par au mois de juin, j'ai eu après la neige, j'ai eu quelques orages. On s'est tapé un peu plus chez mes voisins. Moi un petit peu de pluie. Ça n'a pas suffi pour faire reverdir l'herbe qui en a du regain, j'en ai pas eu.
Ah oui, parce que là on voit vos bêtes là, qui sont en contrebas dans la forêt, là devant nous. Et c'est vrai que l'herbe est là, elle se fait rare là.
Ah oui, oui, voilà, ouais. Là, elle cherche, elle regarde, elle voudrait monter, mais c'est pas à moi ici. À cette heure-là, elles veulent encore monter. Voilà, jusqu'à 2 ou 3 heures, elles aiment bien monter. Et moi, je leur interdis, on reste en bas. Puis à 3 heures, elles vont toutes redescendre.
Il y a des brebis là, devant nous qui ont un ventre énorme, ça veut dire que l'agnelage, ça va être...
Ah oui, ouais. À partir du 18, voilà, du 18 octobre, ça va commencer. Donc,
Alors c'est étrange de penser que c'est la fin de l'estive, alors qu'il y a un temps magnifique.
Et ouais, quoi. Et ça, c'est clair.
Et une nature magnifique autour de nous.
Bah, je vais m'en rendre compte quand j'aurai mis mes valises dans la voiture. Si ça y est, c'est vraiment fini. Puis il fait beau, voilà. Puis bon, j'ai pas assez d'herbe. Ah, pour mes 600 brebis qui me restent, là, j'en ai pas vraiment assez.
Il n'y a pas assez d'herbe. Et puis à partir de cette saison, on peut s'attendre à tout. Il peut y avoir soudain une averse de neige.
Exactement. Et, voilà. Ah ouais, ouais. Il suffit qu'il y ait du vent qui se lève. Et que, surtout du vent d'ouest, là, côté barcelonnette. C'est fini, il y a la pluie, la neige, c'est terminé. Joël, mon voisin, qui est au lac du Lausannier, au-dessus, il a la neige. Bon, là, c'est un peu plus disparu, mais ça fait une semaine qu'elle est là encore.
Patrick Favre, de la Maison de la Transhumance de Saint-Martin-de-Croix. Alors, Stéphane ne peut pas le dire, mais le résultat de ce troupeau, c'est le résultat des béliers, bien sûr, mais c'est aussi le résultat d'un très bon travail du berger.
Oui, c'est le résultat du travail des bergers au printemps, lors de la lutte, lorsque les béliers ont été mis sur les brebis, et puis également en alpage, donc avec une conduite sereine, je dirais, qui fait qu'effectivement les brebis retiennent bien et sont quasiment toutes gestantes là maintenant au mois d'octobre. Donc ça, c'est une belle réussite à la fois de l'éleveur et du berger. Là, on retourne dans la plaine de la Croix pour effectivement réaliser l'agnelage, qui est la phase principale de l'élevage, puisque finalement, c'est quelque part la récolte de l'éleveur, puisque les agneaux naissent, et naissent quand ils naissent beaux et en nombre, là c'est que vraiment tout s'est bien passé sur l'année.
Bon, allez, je vais envoyer les chiens, on va leur pas faire demi-tour. Hera, boum, Vénus, droite. Tac, là-bas. Il y a la fleur. Eh ben, viens au lac du Lausannier.
Fais le tour, Vénus.
Tant qu'il y aura des bergers, un reportage de Pascal Dervieux avec Hervé Desjardins à la prise de son, réalisé par Anne Liorot, assisté de Guillaume Béraud, mixage Jason Taous. Je vous rappelle que vous pouvez écouter ce reportage en son surround sur notre site si vous êtes équipé d'un système d'écoute 5.1. La semaine prochaine, nous vous proposons un reportage avec les compagnons d'Emmaüs confrontés au nouveau visage de la pauvreté. Dans quelques instants, le journal de 10h. Bonne semaine à l'écoute de France Inter.